Laurence Alloa. Tegi Mfa Traoré. Musique du monde sur RFI.
C'est une flûtiste, compositrice et interprète que nous recevons aujourd'hui dans ces musiques du monde. Naysem Jalal présente son nouvel album qui est un double album avec une partie studio enregistrée avec son quintet Rhythm of Resistance et une partie live avec l'Orchestre National de Bretagne. Naysem Jalal vient du classique occidental, mais elle a des racines orientales, si bien qu'elle fait des allers-retours entre le conservatoire et les masterclass Keyrot du violoniste Oum Kalsoun. Elle se lance aussi dans le hip-hop, elle écrit de la musique pour le cinéma, elle est partout. Cette flûte traversière s'est mise au service d'un autre monde, c'est le nom de ce double album. Bonsoir. Naysem Jalal, bonjour.
Bonjour.
Ou bonsoir, je ne sais pas quelle heure il est. On met tellement peu le nez dehors en ce moment. Vous sortez avec votre groupe Rhythm of Resistance un nouvel album, un double album qui s'appelle Un autre monde et qui est constitué de deux parties. Il y a une partie qui est faite avec le quintet et une autre avec l'Orchestre National de Bretagne. Alors la première question est toute simple, Naysem. Comment fait-on pour composer pour un quintet et pour un orchestre national, parce que c'est un orchestre symphonique, c'est-à-dire il y a des instruments à vent, à cordes, des instruments à percussion, enfin ça fait beaucoup de monde.
Oui, ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de pupitres effectivement. Et c'est vrai que c'était, déjà c'était un défi incroyable pour moi et une vraie chance de pouvoir avoir l'occasion d'écrire pour un orchestre symphonique. Bon, sachant que je n'avais jamais fait, mais j'ai quand même eu une formation classique au conservatoire, donc j'ai fait partie des classes d'orchestre. J'ai analysé en cours d'analyse des partitions d'orchestre symphonique, donc ce n'était pas tout nouveau pour moi. Mais c'est vrai que c'était un gros défi, et c'est vrai que la plupart des musiciens de jazz, en général, quand ils composent, quand ils ont une commande pour un orchestre symphonique, ils composent la musique et ils font appel à un arrangeur pour les arrangements. Et en fait, j'avais assez envie de relever le défi de faire moi-même les arrangements pour l'orchestre. Et ce qui était assez fou dans cette expérience, c'est que j'ai écrit en parallèle le répertoire pour le quintet seul et en parallèle les mêmes morceaux pour qu'ils puissent être joués par l'orchestre symphonique. Donc c'est un double répertoire. Et ce travail, justement, où j'écrivais d'abord pour le quintet et puis pour l'orchestre, et parfois j'écrivais d'abord pour l'orchestre et ensuite pour le quintet, les deux partitions se sont nourries l'une l'autre. Et ça, c'était assez neuf comme façon de procéder.
Est-ce que le quintet a joué donc avec l'orchestre symphonique? Vous êtes inclus tous les cinq au milieu de ce grand orchestre breton?
Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, d'un point de vue classique, on appellerait ça un concerto grosso. Où donc, par exemple, au lieu d'avoir un soliste, comme dans un concerto, on a cinq solistes. Mais moi, mon idée, c'était vraiment comme quand j'essaye de brouiller les frontières entre le hip-hop, le jazz ou autre. Et là, j'ai essayé de brouiller les frontières entre les deux formations. Par exemple, il y a des moments où je suis soliste, mais le quintet m'accompagne avec l'orchestre. Donc, on ne sait plus vraiment qui est l'orchestre et qui est le quintet. Il y a d'autres moments, au contraire, où c'est toute la section des cordes qui va jouer la partie soliste, donc qui va jouer le thème principal, le reste de l'orchestre et le quintet qui accompagnent la section cordes. Donc, en fait, j'ai toujours essayé de donner à tel ou tel... dans la distribution, en fait, des voix entre l'orchestre et le quintet, j'ai essayé de ne pas toujours donner les voix solistes au quintet, mais qu'au contraire... il y a une espèce de frontière un peu effacée, un peu mouvante et mobile, et pas du tout hermétique, du coup, entre les deux ensembles.
Naysam Jalal, on n'est ni dans la symphonie, ni dans le concerto. Qu'est-ce que vous avez fait en gros ?
Moi, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a des catégories qui fonctionnent dans l'histoire de la musique, de cette musique-là. Dès qu'on arrive avec un autre langage ou avec d'autres formes d'organisation de la musique, les catégories qui existaient, elles ne sont plus tellement adaptées, en fait.
Un sourire au cœur, c'est le titre que vous venez d'écouter avec l'Orchestre National de Bretagne, merci. Une balade qui parle d'amour. Alors dans cet album, Un autre monde, il n'est pas seulement question d'amour, Naysam Jalal, cet album a plusieurs dimensions. Il y a un volet poétique, onirique, écologique et aussi social.
Ce qui est assez fou en fait, c'est que moi j'ai commencé à écrire ce répertoire en 2017. Au début, c'était... c'était évidemment des revendications sur le monde de l'autre, cet autre monde qui est aussi le monde de l'autre, en fait, qui est aussi le monde où on laisse à la diversité, à l'autre, au regard de l'autre, à celui qui est différent, la place. Parce qu'en fait, notre monde aujourd'hui, c'est un monde où il n'y a qu'une seule idéologie qui fonctionne, c'est l'idéologie libérale, capitaliste. Il n'y a que les valeurs marchandes, en fait, qui sont essentielles.
Est-ce qu'il y aurait une couverture de journal qui vous aurait vraiment gêné récemment ?
Moi, je ne sais pas s'il faut leur faire de la pub. En tout cas, il y a un journal de droite en France qui avait mis en avant un masque avec des billets de 500 euros en disant voilà, comment profiter de la crise. Donc pendant qu'il y en a qui crèvent la dalle, pendant que nous, les artistes, on est non essentiels parce qu'on véhicule d'autres valeurs que les valeurs marchandes, même si on vend des disques, même si on vend des places de concert, même s'il y a une économie de la culture, on est des artistes, on est des gens qui véhiculons d'autres valeurs que les valeurs marchandes. Et donc on est non essentiels. Ça, c'est assez ouf. Et en fait, je pense que toutes ces réflexions que j'avais, moi, déjà bien avant la pandémie, en fait, sur le monde dans lequel on vit et sur comment s'en sortir de ce monde-là. Et justement, si on veut s'en sortir de ce monde-là, il faut qu'on puisse entendre d'autres voix, d'autres idées, d'autres imaginaires que l'imaginaire de l'argent, que l'imaginaire marchand. Et en fait, pour nous, pour nos vies, pour notre façon, pour notre dignité à chacun dans nos vies et aussi pour la planète, parce qu'en fait on va droit dans le mur avec cette idée de profit exponentiel qui se fait toujours au détriment du vivant, en fait, que ça soit dans les hôpitaux ou que ça soit dans les glaciers. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, c'est toutes ces questions-là que je me posais. Et quand la pandémie est arrivée, alors nous, on avait déjà enregistré la partie avec l'orchestre. En fait, on a enregistré avec l'orchestre en février 2020, le mois juste avant le début du confinement. Et quand le premier confinement a commencé, tout le monde a commencé à parler du monde d'après, d'un autre monde, machin. Et je me disais, ah ouais, quand même, c'est fou, parce que c'est vrai que moi, ça fait 3 ans que je travaillais sur ce répertoire-là et que j'écrivais et que j'essayais de développer ces idées-là. Et en fait, je pense que c'est juste, non pas que je sois visionnaire du tout, mais c'est juste que c'est en fait l'aboutissement naturel de réflexion sur le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que quand tu réfléchis au monde dans lequel on vit, au bout d'un moment, tu te dis, en fait, il faut qu'on change, quoi.
Il y a un titre dont la dimension semblerait plutôt écologique. Alors là, j'ai votre bio sous les yeux qui présente l'album. C'est le titre Bulerya Sahat. Alors, non, je ne sais pas le dire.
C'était pas mal.
Dites-le-moi, que je l'ai dans l'oreille.
Bulerya Sahat al-Ard.
Alors là, ce titre, vous l'avez interprété avec le quintet. Bulerya, ça me fait penser à l'Espagne, évidemment.
Oui, oui.
Mais pas la suite.
Alors, Sahat al-Ard, ça veut dire le cri de la terre. Et en fait, c'est un morceau que j'ai composé sur une équivalence entre un 4-4 binaire et
attention technique.
12-8 ternaire, voilà, c'est ça. Ce sont des mesures. Et en fait, la bouleria, c'est un rythme traditionnel de la tradition flamenca. Et que j'ai un petit peu étudié, parce que j'ai beaucoup écouté le flamenco, et puis j'ai été à Séville et passé un peu de temps avec des palmeros qui m'ont expliqué un peu les compas et tout ça. Voilà, il y avait cette influence un peu flamenca dans le morceau. Et en même temps, pendant que je composais ce morceau, j'entendais un cri. Je voyais bien qu'il y avait une détresse, je voyais bien qu'il y avait un cri, et j'arrivais pas... Tu sais, parfois, en fait, ton idée, elle précède la musique. Et parfois, la musique, elle précède l'idée. Donc, en fait, c'est un truc qui est là au fond de toi, qui bouillonne, qui veut sortir. Donc, tu le fais sortir. Et après, tu essayes d'analyser c'est quoi pour lui donner un nom, pour mettre des mots dessus. Et du coup, j'entendais ce cri-là et je savais pas trop de quoi il s'agissait. Et après, j'ai compris qu'en fait, ouais, vraiment, c'était le cri de la terre.
Ce qui est très étrange, enfin c'est pas étrange, mais ce qui est vraiment marquant dans votre carrière, c'est que vous avez de nombreux projets. Vous travaillez indifféremment avec les gens du jazz, du hip-hop, du classique, comme ici avec l'Orchestre National de Bretagne. Mais vous parlez à l'instant de l'Andalousie. C'est vrai que vous avez pris le temps de vous poser et d'apprendre les palmas, donc les...
Ouais, voilà, les palmas.
Avec Boboté, il s'appelle.
Oui, Boboté.
C'est un gitan, il habite où?
Dans la cité des 3000 à Séville.
Vous étiez allé quand? Pendant le confinement?
Non, non, non. j'y suis allée, non, bien avant. Non, non, ah, mais bon, bien, oui, j'avais composé tout ça bien avant le confinement. Non, non, j'ai.
Autrement, je vous aurais demandé des plans. Passer par la montagne, c'est ça,
c'est ça, ouais. Voilà. Avec les chèvres.
Avec les chèvres.
Non, je crois que c'était en 2017. Il me semble que c'était en 2017. J'ai été en Andalousie la première fois pour des vacances. J'ai adoré. C'est vrai qu'en Égypte, moi j'ai vécu en Égypte 3 ans, et il y avait des musiciens avec qui jouaient en Égypte, notamment des percussionnistes, qui étaient fans absolus de flamenco. Et moi, ça me saoulait, le flamenco. J'ai souvent eu des idées arrêtées sur des trucs, jusqu'au jour où j'avais un contact direct avec la chose, et là, je me rendais compte de sa valeur, en fait. Il n'y a rien qui remplace l'expérience directe.
Quand vous étiez petite, parce que vos parents sont d'origine syrienne, dans votre bio, je disais que la musique arabe, Feroz, Oum Kalsoum, ça vous saoulait dans la voiture aussi.
Ah, ça me saoulait, ouais.
Des idées très arrêtées, c'était cassé. Hein.
Oui, mais ça me saoulait parce qu'en fait, on m'avait appris au conservatoire que tout ce qui n'est pas un ton et un demi-ton, c'est faux. Or, il y a de la microtonalité dans la musique arabe qui n'existe pas dans la musique tempérée occidentale. Et du coup, pour moi, c'était faux. On m'avait appris que c'était faux, donc je ne supportais pas d'écouter ça.
Jusqu'au jour, à 18 ans, où vous décidez de faire un voyage initiatique vers les origines, c'est-à-dire la Syrie.
Voilà, ouais. J'ai été en Syrie étudiée.
Et là, le quart de ton, c'est matin, midi, minuit.
Oui, et puis c'était un kiff, du coup. Enfin, c'était aussi une façon de m'émanciper de cet apprentissage classique occidental que j'avais reçu et de d'aller voir ailleurs comment est-ce qu'on peut entendre et appréhender la musique différemment.
Donc après, vous partez en Égypte et là, vous faites la rencontre d'un violoniste qui va lui aussi un peu changer votre manière de regarder et d'écouter la musique.
Oui, Abdoderer, c'est un grand, grand violoniste qui a joué avec... avec Oum Kalsoum, avec Cheikh Mohamed Omran, avec plein de grands, grands musiciens.
Mohamed Abdel Wahab.
Et avec Mohamed Abdel Wahab aussi, ouais. Et donc, c'est un super musicien. Et c'est vrai qu'il était d'une générosité. Maintenant, il est vraiment âgé. Donc, il a un peu arrêté son enseignement. Mais à l'époque, donc moi, j'ai vécu au Caire il y a à peu près 15 ans. À l'époque, on se rejoignait avec des jeunes musiciens chez lui tous les soirs. Donc, non seulement il nous offrait l'apprentissage, parce qu'on ne lui a jamais rien payé du tout, d'autre que notre respect et notre infinie gratitude. Et en plus, il nous payait le thé, les petits gâteaux, machin. Enfin, c'était super chouette et on apprenait à jouer sa musique, on apprenait à jouer tout simplement la musique arabe, à jouer juste. Et ce qui était assez fou, c'est que vraiment, il nous interpellait sur la place de la note, sur le sens de la note comme d'une lettre. Il appelait les notes des lettres. Ce qui n'est pas évident, hein, je veux dire, appeler une note, une lettre. Et il y avait vraiment un caractère sacré, comme dans l'écriture coranique, quoi. C'est-à-dire, quand tu dis la lettre, il faut la dire vraiment. Et ça, c'était une expérience quasi métaphysique, quoi. Parce que, au début, j'avais du mal à comprendre, mais en l'écoutant, en fait, les choses étaient vraiment limpides. C'est-à-dire qu'il avait un son d'une puissance spirituelle, d'une profondeur. Mais enfin, voilà, c'était complètement fou, ouais.
C'était le violon du maître Abdoderer, violoniste égyptien qui est né en 1936 et qui a été très sollicité par les grands orchestres arabes et notamment celui d'Oum Kalsoum. Ce morceau figure sur un enregistrement de Naïssam Jalal qui était paru en 2019. Alors Naïssam, j'ai lu les titres de votre nouvel album qui sont très évocateurs, très poétiques, comme par exemple « Paysage de notre destin »,« Promenade au bord du rêve » ou bien « Hymne à la noix ». Est-ce que vous auriez un problème avec les hymnes nationaux, peut-être ?
Oui, c'est ça. C'est à la fois un jeu de mots avec l'hymne à la joie de Mozart et puis en même temps une...
Il y a l'hymne à l'amour aussi.
Oui, et puis une façon aussi d'un peu de... En fait, j'ai vécu en face du Stade de France pendant 4 ans. Et je me tapais des Marseillaises à 10h du matin, les balances de la Marseillaise dans le Stade de France à 10h du matin. C'est, voilà, c'est tout ce qu'il faut. Bah, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'il faut pour te faire détester l'hymne national. Hein. Voilà.
Un sourire au cœur, un monde neuf, promenade au bord du rêve. Là, vous êtes arrivée, vous faisiez la moue ce matin parce que vous n'étiez pas contente parce que vous veniez d'apprendre que votre tournée en Finlande avait été de nouveau annulée. Quels sont les grands rendez-vous que vous avez ratés en 2020 ?
Bah, y avait cette tournée là qui était que j'avais vraiment envie de faire là en Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie. On avait 15 dates.
Ça c'était en avril l'année dernière.
Juste après, je devais partir à Cape Town, rencontrer Herbie Hancock et jouer pour l'International Jazz Day en Afrique du Sud. Donc déjà l'Afrique du Sud, c'est un
dommage.
Ouais. Y avait le festival Paris Jazz Festival que je suis depuis que j'ai 17 ans. Donc en gros, ça va faire bientôt 20 ans que je rêve d'y jouer. J'ai jamais joué. Et là, ça devait être mon premier concert là-bas. Donc, ça a été annulé. Enfin, voilà. Non, mais je ne suis plus à compter les déceptions. Mais ce qui est vraiment dur, c'est que là, maintenant, ça fait un an. C'est-à-dire qu'au début, bon, on se disait, bon, les choses vont être reportées. Et puis, ça se fera l'année prochaine. Ce n'est pas grave. On peut attendre un an. Il vaut mieux ça. Mais en fait, on se dit, bon, là, aujourd'hui... Alors déjà, cette question de la nécessité sanitaire de fermer les salles de spectacle, elle est absolument pas légitime. Je veux dire, soit... On ferme les métros, on ferme les RER, on ferme les gares et on ferme les salles de spectacle. Soit vu comment moi je me retrouve collée, serrée à des gens dans le métro, eh ben, il n'y a pas de raison de fermer des salles de concert. Pour nous, c'est vachement dur parce qu'on a du mal à se projeter. Parce qu'on s'est dit, bon, bah, quand les choses vont rouvrir, quand les supermarchés vont rouvrir, quand les centres commerciaux vont rouvrir, nous, on va rouvrir. Eh ben non, en fait, on n'a pas rouvert. Et c'est là où en fait il y a une espèce de grosse angoisse. Ben, quand est-ce que ça va rouvrir ? On ne peut pas se projeter, on n'a pas de perspective. Financièrement, pour certains, c'est très très compliqué. Parce qu'en fait, même si on a le chômage, on perçoit à peu près 60% de ce qu'on gagnerait si on travaillait. Donc pour ceux qui ont des enfants, qui ont des crédits, qui ont des loyers, qui ont des trucs, c'est vraiment dur. Et en plus de ça, il y a mentalement, psychologiquement, le fait d'être dans le flou total, de ne pas savoir, de manquer de perspective, de ne pas savoir où on va, et de se dire, mais en fait, si ça se trouve, tout va rouvrir un jour, et puis nous, on sera toujours fermés. Parce que jusqu'à présent, c'est ça qui s'est passé, en fait. On est resté fermés.
Nassim Jalal, à côté de la sortie de votre double album avec votre quintette Rhythms of Resistance, donc qui s'appelle Un autre monde, double CD, je vous ai demandé de faire une programmation musicale, une playlist, soyons internationales. Et vous avez choisi l'artiste Oslob, que vous connaissez bien puisque vous avez travaillé avec lui, je vous laisse le présenter, et ainsi que le titre que vous avez choisi qui est Dawayer.
Oslob, c'est un magnifique artiste qui est rappeur, chanteur, producteur du hip-hop, c'est vraiment quelqu'un qui est multiple dans ses capacités. Et donc on a un groupe ensemble qui s'appelle Al-Harin, les autres, en arabe. J'aime beaucoup son travail et il a sorti ce nouvel album pile poil en mars dernier, donc pile poil pendant le premier confinement. Donc c'est vrai que peu de gens ont eu vent de cet album, qui est un album magnifique où il a invité 17 musiciens, rappeurs du monde entier à venir chanter avec lui dans ce disque. Et ce premier titre que j'ai choisi, donc Dawayer, qui est un titre en deux parties, c'est le seul où lui-même chante. Donc tout le reste, en fait, il a fait vraiment les instrus, il a composé tout, il a fait venir les gens, mais il n'a pas chanté. Et dans ce morceau-là, il chante et il raconte son retour au Liban. Parce que donc lui, il est palestinien, né dans un camp de réfugiés au Liban. Et il y a quelques années, il a obtenu l'asile politique en France. Et il pouvait, il n'a jamais pu retourner au Liban, sauf là, à un moment, il est retourné au Liban. Il parle de son retour au Liban, il parle du fait que rien n'a changé et que c'est même encore pire qu'avant. Ça parle de l'exil, ça parle du regard de l'exilé sur son pays quand il revient. Et ça, je pense que c'est une expérience qui est à la fois commune à tous les exilés qui reviennent chez eux et à la fois très singulière parce que chaque individu est différent et chaque individu revoit avec les yeux de son enfance ou avec les yeux de sa jeunesse un décor qu'il a stylisé dans son esprit. Et ça, je trouve ça vachement beau. Et moi, je me suis reconnue là-dedans aussi parce que, bon, moi, j'ai pas vécu toute ma vie au Caire, mais j'ai vécu 3 ans au Caire. Et j'ai fait pendant 11 ans une pause. Et quand je suis revenue au Caire après 11 ans, j'ai pris une grosse claque. Et en fait, ce retour de l'exilé, c'est quelque chose qui est vachement, vachement puissant. Et je trouve que ce morceau est assez magnifique.
Ça me donne envie de boire un thé à la menthe.
Carrément.
Des pignons. Et des cornes de gazelle. Oh, ça va, j'ai faim.
Ouais.
C'était Osloub. Osloub, votre ami qui, sur cette chanson, dit des choses assez tristes, en fait. Vous me l'avez traduit à l'instant parce que oui. Je ne parle pas la langue, mais il dit que même sa mère était contente qu'il soit parti, quoi.
Ouais. Bah oui, en fait, on l'a bien vu cet été avec l'explosion de je sais pas combien de tonnes de nitrate dans le port de Beyrouth. En fait, la corruption a rongé cette société depuis, depuis le début de la guerre civile, en fait, dans les années 80. Et c'est une société ultra-violente. Et les Libanais sont les premières victimes de cette violence. Enfin, les Libanais et les Syriens qui vivent là-bas dans des camps de réfugiés et les Palestiniens qui vivent là-bas dans des camps de réfugiés. Donc, en fait, ils sont tous dans le même bateau et il y a cette situation du confessionnalisme institutionnalisé qui ne rend pas du tout service au progrès.
Autre choix que vous avez fait, Naysem Jalam, c'est Al-Ashikin.
Al-Ashikin.
Al-Ashikin, oui. Le titre
Eshhadi Alam.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Eshhadi Alam, c'est « Soyez témoin au monde ».
Oula.
Voilà. Et en fait, c'est alors Al-Ashikin, c'est un groupe assez dingue, parce que donc, personne ne connaît ce groupe. Voilà. Personne...
Enfin, à cet étage.
Ouais.
On ne représente pas le monde.
Voilà, mais vraiment personne ne connaît ce groupe, sauf les Palestiniens. Non, mais c'est vrai. Donc voilà, en fait... c'est le groupe qui chantait pour la révolution palestinienne et pour la libération du peuple palestinien. Et quand donc, le Front de libération de la Palestine était au Liban avant l'invasion d'Israël, ils avaient donc un groupe de chanteurs qui chantaient ces chansons. Et cette chanson-là, c'est marrant parce qu'en fait, c'est pas mal comme transition. Ce groupe, il parle de la guerre civile au Liban, du sort qui était réservé aux Palestiniens. Et on sait tous qu'il y a eu Sabra et Shatila, on sait tous qu'il y a eu la guerre des camps, on sait tous toutes les atrocités qui ont eu lieu et qui ont été perpétuées contre les Palestiniens au moment de la guerre civile au Liban. Et donc, ça parle de ça, ce chant. Et c'est vraiment très beau. يا نسفا في جبين الكبرياء سدوا أذانهم عن صوت النداء بيروت فاتحة العواصم بيروت آخر كلمة في الحلم تنطقها العزائم فإذا مضت بيروت نحو البحر فالطوفان قادم
ما Naysam Jalal est notre invité aujourd'hui pour parler de son nouvel album Un autre monde qu'elle a sorti avec Rhythm of Resistance, son quintet. C'est un double album. Et dans la foulée, vous nous faites une petite playlist. Vous avez choisi quelques morceaux. Je suis ravie. On tombe en Mauritanie chez Dimi Mintaba. Alors, d'où l'avez-vous connue, cette dame?
Alors, je ne l'ai jamais rencontrée. Hein. J'aurais rêvé de la rencontrer un jour dans ma vie.
Moi aussi.
Elle est magnifique. Oui. Elle est magnifique. C'est la plus grande voix mauritanienne. Hein. C'est magnifique. Moi, j'adore. J'adore.
Fallait pas passer après elle sur scène. Il y en a qui l'ont vécu à leurs dépens. Elle chante tellement fort que quand on passe après elle sur scène, c'est terminé. Le public est parti avec Dimi Mintaba. Il reviendra pas.
Ah bah c'est évident. Bah, oui, c'est évident. Ouais. Non, elle est incroyable. Moi, j'ai découvert la musique mauritanienne avec Dimi Mintaba. J'ai vraiment adoré la musique mauritanienne. Et j'ai eu la chance de rencontrer Nouramine Semali, qui est une super chanteuse mauritanienne avec qui j'ai fait un concert à Paris pour laquelle j'ai composé un titre, vraiment pour elle.
Dans le cadre d'Africolor, cette rencontre.
Oui, qui a été présentée dans le cadre d'Africolor. Et en fait, je suis vachement déçue parce que j'ai aucune trace de ça. Et il me semble qu'on avait fait le morceau juste en duo chez vos collègues à Radio Monte Carlo d'Oualia. Il faudrait que je retrouve cette vidéo parce que j'ai aucune trace de ce morceau. Alors que quand même, bon, et je l'avais écrit exprès pour elle et tout ça. Donc voilà, Dimi Mintaba, oui, c'est vraiment quelqu'un qui m'a... Heureusement qu'il y a la musique enregistrée. Hein. J'ai jamais vu, j'ai jamais entendu en live, mais cet album-là, il m'a beaucoup marqué.
Dime Mintaba sur RFI, une des grandes voix de Mauritanie, aujourd'hui disparue, alors que vous n'avez pas eu l'occasion de voir sur scène. On va terminer avec Bhimsen Joshi. Je pense qu'on part en Inde, là, non ?
Oui, voilà. Un grand chanteur de musique hindoustanie.
Vous avez, entre autres choses, en dehors des palmas que vous avez appris dans le sud de l'Espagne, vous avez aussi appris du chant Drupad, c'est ça ?
J'ai commencé avec le chant carnatique, là.
Alors ça, c'est le sud.
Voilà, c'est le sud, depuis un an. Et là, j'ai commencé à étudier les tablas, donc plutôt la musique du nord de l'Inde en percussion. Et c'est vrai que j'ai très envie d'étudier le chant hindoustani, donc Drupad, ou Kayal, ou Tumri, mais je ne me suis pas encore mis. Dans l'Inde du Nord, le Drupad, c'est la musique d'un petit peu avant l'arrivée des Mogols, donc c'est une musique du XVIe siècle. Et après l'arrivée des Mogols, il y a eu plutôt le Kayal et le Tumri qui se sont développés. Donc voilà, c'est de la musique quand même assez ancienne. Bhimsen Joshi, c'est une des plus grandes voix de la musique hindoustani, qui est mort aussi. C'est un peu le Dime Mintaba de l'Inde.
Dans le titre qu'il va interpréter, je vois Lata Mangeshkar. Lata Mangeshkar qui était une des voix hyper célèbres.
Elle chante avec lui, ils sont deux voix.
D'accord.
Ils sont deux chanteurs. Et le titre, c'est le titre pour Krishna, qui s'appelle aussi Moraliya, et qui est le dieu qui joue la flûte bansuri, le dieu bleu.
Alors c'est Krishna.
Les dieux ont plusieurs noms aussi. Et donc Krishna s'appelle aussi Moraliya.
Naïsaïm Jalal, merci d'être passé dans cette émission sérieuse.
Merci Laurence de m'avoir invité.
Oh, bah, je vous en prie, à bientôt.
धर धरे मोहन मुरली पर। अधरे मोहन मुरली पर अधर अधरे मोहन मुरली पर होट पे माया बिराजे बादे मुरली जा बाद बादे रे मुरली जा बाद बादे मुरलिया 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 गगरिया भूल गरे गोधन को सवरिया भूल गरे गोधन को सवरिया जाने न जाने के दो जाने जाने न जाने के दो जाने जाने लग जग
RFI, la sélection du mois.